Mémoire vive est préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Et c'est un personnage qui est au sommaire de l'émission de ce dimanche, une émission consacrée au jeune Thomas Elek, ce résistant du groupe de la FTP Moy, franc-tireur partisan main-d'œuvre immigrée, qui a été fusillé avec d'autres membres du groupe Manoukian, dont les visages avaient été placardés dans le Paris occupé, sur la tristement célèbre affiche rouge. C'est donc avec un film et un livre que nous allons revenir sur la figure de ce lycéen venu de Hongrie avec sa famille alors qu'il était enfant en 1930 pour s'installer en France. Un très jeune homme élevé dans un milieu politisé qui prend seul, à 18 ans, l'initiative de plastiquer une librairie allemande et qui entre en résistance, avec la bénédiction de sa mère, pour faire dérailler les trains et tuer des soldats allemands. Et c'est bien entendu l'occasion aussi de revenir sur ces jeunes résistants de la Moy qui sont aujourd'hui des figures de l'héroïsme. Avec nous pour en parler Alain Blottière, co-auteur d'un livre et du film, auteur d'un livre et co-auteur d'un film avec Philippe Frehling sur Thomas Elek, donc le roman Le tombeau de Tommy aux éditions Gallimard. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné envie de vous pencher sur la figure de Thomas Elek et pourquoi lui faire justement un tombeau? Est-ce que vous trouviez que cette figure était oubliée?
Elle n'était pas oubliée, elle avait disparu quasiment. Enfin oui, donc oubliée, complètement oubliée. On en parlait très peu parce qu'on parlait finalement très très peu de ces jeunes juifs qui s'étaient enrôlés chez les FTP et Moï. Et pourquoi lui particulièrement? En fait, j'ai cherché l'idée de départ de mon livre, c'était pas particulièrement un juif résistant, c'était un jeune héros d'autrefois que je voulais donc faire confronter avec un jeune du même âge aujourd'hui, d'un adolescent d'aujourd'hui. Donc mon roman en fait est une confrontation entre un adolescent d'aujourd'hui et un héros d'autrefois. Donc j'ai cherché une image héroïque d'un adolescent d'autrefois. Ça pouvait être que d'autrefois, parce qu'il n'y a plus tellement d'adolescents héroïques de nos jours. Il n'y a plus d'occasion, disons, chez nous, dans nos sociétés, d'avoir une action héroïque sur le long terme. Comme il fallait qu'il y ait une confrontation entre aujourd'hui et autrefois, il fallait quand même que l'espace-temps ne soit pas trop long. Donc j'ai cherché parmi donc les jeunes, à ce moment-là, j'ai décidé de chercher parmi les jeunes, les jeunes résistants de la Deuxième Guerre mondiale, puis avec 60-70 ans d'écart, donc un jeune d'aujourd'hui peut éventuellement s'identifier. Les univers sont différents, mais quand même, il y a beaucoup de repères qui permettent une éventuelle identification, ce que je voulais faire dans le livre. Alors ensuite, j'ai, parmi les différents résistants jeunes du même âge, hein, Tommy s'est engagé à l'âge de 16 ans. Parmi tous les jeunes, il y en a eu beaucoup, en fait, des jeunes résistants qui se sont engagés donc très, très jeunes. Alors, c'est avant même qu'il y ait cette affaire Guy Moquet, que Guy Moquet devienne une icône nationale obligatoire maintenant, j'avais pensé à lui, à Guy Moquet. Parce que son personnage me semble intéressant. Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler, enfin, disons, à approfondir le personnage de Guy Moquet, je me suis aperçu que Guy Moquet avait été en fait fusillé en tant qu'otage et non pas en tant que résistant. Donc il avait fait des actes de résistance, mais minimes, il avait distribué des tracts et il n'aurait pas du tout été fusillé, il allait être libéré d'ailleurs, on n'avait pas décidé de le prendre comme otage. Donc personnage formidable, Guy Moquet, surtout pour le courage qu'il a eu face à la mort. Mais moi je voulais un vrai résistant, quelqu'un qui s'était engagé et qui s'était engagé d'une façon extrême, c'est-à-dire qui avait pris les armes et qui avait eu le courage de tuer. Voilà ce que je voulais. Donc, déjà, ça limitait un peu mon choix. Et alors, ce qui m'a décidé finalement à choisir Thomas Elek, c'est que j'ai appris que sa mère, Hélène Elek, avait, bien après la guerre, dans les années 70, écrit ou plutôt dicté ses mémoires, que ces mémoires qui s'appellent La mémoire d'Hélène avaient été publiées chez Maspero, et donc que le livre était plus ou moins disponible, même s'il n'est pas en librairie, mais on pouvait quand même le trouver et le lire. Et j'ai lu ce livre extraordinaire de Hélène Hellet, qu'il faudrait absolument rééditer, où elle ne raconte pas que l'histoire de son fils, mais toute sa vie, qui commence en Hongrie et qui dure assez longtemps puisqu'elle est décédée assez âgée. Donc elle raconte toute sa vie et tout le passage concernant son fils est non seulement passionnant et mouvant, mais riche en détails de la vie privée du garçon, qui me permettait, moi, donc d'étoffer la matière de mon roman, puisqu'au fond, il s'agit d'un roman. Même si toute la partie concernant Thomas Hellec n'est pas vraiment un roman. C'est une reconstitution historique de ce que l'on sait de Thomas Hellec au plus près de ce qu'on peut savoir. Donc il y a les mémoires de sa mère pour tout ce qui est sa vie privée, son caractère, les relations dans la famille, etc. Donc tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et puis ensuite, toutes les recherches que j'ai faites à partir de là, aux archives de la police, aux archives nationales, etc., où j'ai trouvé beaucoup de choses, et beaucoup de choses inédites, dont même la mère ne parlait pas. La mère ayant écrit ses mémoires 30 ans après les faits, d'abord il fallait vérifier tout ce qu'elle disait, parce qu'elle pouvait se tromper, elle se trompe de temps à autre, sur des dates, par exemple, donc il fallait vérifier tout cela. Et puis, en même temps, c'est la parole d'une mère. Alors, la parole d'une mère, juive ou pas, il faut s'en méfier un tout petit peu quand même. Et par exemple, pour vous donner un exemple très concret, pour sa mère, son Thomas, qui était lycéen au lycée Louis le Grand, était un brillant élève. Donc il avait quitté des études brillantes à l'âge de 16 ans, en seconde, pour se lancer dans la résistance. Et moi, je suis allé voir ses bulletins scolaires aux archives de Louis le Grand. C'était pas du tout un bon élève. C'était un élève en fait qui ne fichait plus rien dès que la guerre a commencé, parce qu'il avait évidemment l'esprit ailleurs. Et en fait, il était menacé d'exclusion, il avait des notes catastrophiques. Il n'avait qu'une seule chose qui l'intéressait, c'était la littérature française, la littérature anglaise. C'était un garçon qui lisait beaucoup. Et c'est d'ailleurs cela qui fascinait ses camarades de combat. Tous ceux qui ont survécu ont témoigné de cela, dont Henri Karajan, par exemple, qui vit toujours. Là, c'est la première chose qu'il m'a dite. Il était absolument... Enfin, d'abord, il avait plein d'aspects fascinants en lui, son physique déjà. Il était grand, blond, il avait un type un peu nordique, il était extrêmement beau. Mais en plus et surtout, il avait cette culture littéraire que les autres, qui étaient souvent des petits artisans, hein, des petits artisans du sentier, des apprentis fourreurs, des mécaniciens, etc., étaient fascinés par sa culture. Voilà donc tout ce que j'ai pu trouver. Donc, j'ai fait des recherches assez approfondies. J'ai pu, dans le livre et encore plus en fait dans le film, reconstituer assez précisément donc l'itinéraire de ce garçon, de son arrivée en France jusqu'à son exécution en 1944.
Oui, et d'ailleurs, on voit bien dans le film, effectivement, une géographie. On va de lieu en lieu, les immeubles où il a habité, les immeubles où ses parents ont travaillé. Et ça donne effectivement une image, alors un peu assez ténue, mais malgré tout une image de ce qu'il a vécu. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de l'ambiance dans laquelle vivait Thomas Hellec avec sa famille, et peut-être une ambiance justement un peu politisée de par le travail de ses parents et de par la culture de ses parents également?
Oui, donc ses parents étaient communistes. Et communiste militant, communiste sincère, communiste comme on pouvait l'être jusqu'aux années 50, c'est-à-dire d'une façon très engagée et communiste depuis longtemps. Ils étaient communistes depuis donc la Hongrie qu'ils avaient quittée en 1930, et aussi important quand même de le dire, j'ai aussi choisi, enfin j'ai apprécié de pouvoir choisir Thomas Elleck aussi parce qu'il était juif. Et donc je voulais, ça m'intéressait le fait qu'il soit juif parce que je voulais rappeler à ceux qui ne le savent pas trop que beaucoup plus de juifs qu'on ne croit ont résisté des armes à la main. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a eu environ 1000 fusillés pour actes de résistance au Mont-Valérien pendant l'occupation. Près de 200 sur ces 1000 étaient juifs. Donc le rapport est énorme par rapport à la population ou non, à la population de même résistante. Le nombre est très important. Donc, il était juif, ses parents étaient juifs, mais il n'a pas du tout été élevé dans une culture juive. Ces gens vivaient dans une laïcité absolue, avaient complètement abandonné toute pratique religieuse. Alors le père, la mère n'avait même pas été élevée d'une façon religieuse, Hélène. Le père, oui. Le père avait été élevé dans une famille religieuse, mais était devenu communiste et avait abandonné toute pratique. Et peut-être même toute croyance, mais ça, on ne le sait pas très bien. En revanche, ce qu'on peut dire, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il est encore de la famille, Thomas, il a entre autres deux neveux, qui sont deux personnages extraordinaires, exceptionnels, dont l'un qui est devenu rabbin, et qui s'appelle Thomas Elleck, lui aussi, qui est rabbin à New York, que j'ai rencontré. Et je voulais parler avec lui, on le voit dans le film, il y a un très beau témoignage de lui. Je voulais parler justement de cette judéité, de ce judaïsme dans la famille. Et pour lui, le communisme, en quelque sorte, avait remplacé d'une façon naturelle ou historique, dans le contexte historique de l'époque, avait remplacé le judaïsme. Mais au fond, c'était un peu pareil, c'est une sorte de messianisme. Qui se substituait et les valeurs fondamentales étaient quand même transmises. Il y avait quand même une espèce de transmission. Donc Tommy a grandi donc dans un univers très politisé et très hongrois. C'est-à-dire que sa mère, donc, qui avait ouvert une série de petits restaurants, puis finalement un restaurant pas si petit que ça, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Vers 1935, par là, un restaurant qui existe toujours, même s'il a changé de nom, recevait beaucoup de Hongrois, de réfugiés hongrois, particulièrement de réfugiés politiques hongrois et de résistants hongrois. Donc, et on parlait hongrois à la maison. Thomas avait gardé, d'ailleurs, il a gardé, comme dit sa mère, jusqu'à sa mort, le hongrois de ses 5 ans, mais c'est pas rien, le hongrois de ses 5 ans, il savait quand même quelques mots, il parlait un peu. Et donc il a grandi dans un... Et il faut entendre, on l'entend dans le film, la voix de sa mère. Sa mère a un accent français à couper au couteau, je crois même qu'on lui a mis des sous-titres.
Oui, un accent hongrois.
Un accent hongrois, oui. Très 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 fort. Donc il a grandi dans un milieu communiste, un milieu profondément immigré, quoi, hongrois. Des gens qui étaient très peu, assimilés. Elle a fait plein de petits boulots pour survivre. Son mari a eu beaucoup plus de mal à s'insérer socialement en France, mais elle est très bien arrivée. Néanmoins, elle restait dans une communauté quand même très juive, communiste et communiste étranger. Et elle était amie avec tous les responsables de la FTP et MOI. Elle a connu Manouchian, elle a connu surtout Boxor, qui était le supérieur hiérarchique direct de son fils. Et donc, il a grandi dans un milieu politique et hongrois. Mais, quelque chose de très importante, elle a mis ses enfants à l'école communale française. Donc, Thomas a eu cette culture parallèle, disons, mais il a quand même été à l'école primaire, rue des Boulangers, dans la rue Monge, et puis ensuite au collège Montaigne, et ensuite au lycée Louis-le-Grand. Et donc il a grandi à la maison, dans une culture, disons, hongroise et communiste, et puis en dehors de la maison, dans une culture totalement française. J'ai retrouvé au mémorial de la Shoah dans les archives, enfin c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais l'archiviste qui a trouvé pour moi merveilleusement, merveilleuse surprise, après l'écriture de mon livre et après même la réalisation du film, des cahiers scolaires de Thomas, où on voit un petit Français, quoi. C'est un petit Français qui écrit sur Corneille, Racine, qui prend des notes, qui fait des petits dessins.
Alors un petit Français qui finit par entrer dans la résistance, alors qu'il est encore presque un enfant. Il est au lycée et il prend cette décision. Alors ça peut paraître inconscient, ça peut paraître incroyable, cette jeunesse, mais c'est à la fois quelque chose de... qu'ont partagé certains jeunes à l'époque. On sait que le 11 novembre 40, des étudiants ont fait une manifestation pour protester donc contre l'occupation allemande, contre la reddition de Pétain. Et pourtant, ça surprend encore cette jeunesse et ce désir, cette décision d'entrer en résistance et de commettre assez vite un premier acte terroriste.
Oui, il a commencé en 41, je ne sais plus exactement la date, il a rencontré dans le restaurant de sa mère un groupe de jeunes étudiants communistes, pas étrangers, pas spécialement ni juifs ni étrangers, et il a commencé avec eux à faire une résistance, disons, qui était, faut pas dire banale, mais qui était une résistance qui commençait à prendre forme et à s'étendre, qui était une résistance light, je veux dire. Hein. C'est des distributions de tracts, tags, on ne disait pas comme ça à l'époque, graffiti sur les murs, ce genre de choses. Et puis, sa mère fréquentant des gens beaucoup plus radicaux, il a rencontré également chez sa mère... les responsables de la FTP MOI. Et ces gens-là se battaient les armes à la main et commettaient des attentats, tuaient des Allemands dans les rues, etc. Et alors pourquoi il a franchi ce pas vers une résistance armée dangereuse et on peut presque dire suicidaire, parce que se battre les armes à la main dans Paris contre les Allemands, l'issue était quand même, les probabilités d'une issue fatale étaient extrêmement élevées. Et ça, je pense que ça tient son tempérament, que sa mère explique bien d'ailleurs. Il avait un tempérament extrêmement violent, c'était un garçon qui ne se laissait pas faire du tout. Il y a plusieurs épisodes que raconte sa mère à cet égard, avant qu'il entre en résistance. Et il avait ce tempérament, et puis aussi un orgueil, c'est-à-dire une... je pense qu'il n'a pas supporté l'image que la propagande allemande et française de l'époque donnait du juif. Cette image qu'elle donnait du juif, qui était une image totalement dégradante, quasiment animale du juif, je pense qu'il y a eu chez lui ce côté... moi, je vais vous lire ce que c'est qu'un juif. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est qu'un juif. Ce n'est pas ce que vous montrez, vous. C'est autre chose. Et que pour montrer ça, il fallait qu'il se batte les armes à la main.
Alors, est-ce que vous pouvez, Alain Blottier, nous parler un peu justement de ce groupe, la FTP-MOI ? Alors, on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. Les gens ne se souviennent pas toujours donc de ce groupe de la main-d'œuvre étrangère qui donc a pris les armes et est entré en résistance.
Alors, c'était une émanation du Parti communiste. Donc, le Parti communiste, même avant-guerre, avait créé je vais employer des mots qui sont peut-être pas forcément historiquement justes, avec une sorte de section pour les étrangers, parce qu'il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup d'immigrés en France avant-guerre, et beaucoup de communistes de tous les pays d'Europe centrale, d'Espagne évidemment, qui étaient pourchassés dans leur pays. Et donc le Parti communiste avait créé donc une section d'étrangers. Et de cette section, pendant la guerre, au début... a émané tendance, cette section militaire, qui était donc une fusion entre le MOI, le mouvement des, des le, mouvement des ouvriers, de la main-d'œuvre immigrée, pardon, et les FTP, donc, qui étaient une organisation militaire résistante. Et donc les FTP et MOI, c'est une espèce de fusion de ces deux, une partie militaire et une partie politique. Et ces FTP et MOI qui ont été créés, si ma mémoire est bonne, je crois vers 1941, mais je peux me tromper, a été organisé en groupe de langue, essentiellement. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, il y avait un groupe d'Europe de l'Est qui parlait yiddish, il y avait un groupe d'Italien, il y avait un... Et puis il y avait aussi, en dehors des groupes de langues, il y avait aussi une section spéciale qui était destinée aux actions les plus dangereuses, les attentats, les choses comme ça. Et donc il y avait plusieurs détachements. Et Tommy est passé d'un détachement juif à un détachement qui a été créé vers 1942, qui était un détachement, alors là, multinational, qui était chargé de faire dérailler les trains et qui était dirigé par Boczor, qui était un juif de Transylvanie, qui était un ami de la mère de Thomas. Et sa spécialité, à partir de 1943, après avoir fait plusieurs attentats déjà assez meurtriers, la spécialité de Thomas a été, à partir de l'été 1943, a été faire dérailler des trains.
Alors Alain Blottière, il faut dire aussi, parce que malheureusement le temps nous est compté, que assez vite, les membres de ce groupe parisien ont été arrêtés. Ils ont donc été 23 arrêtés et puis donc fusillés au Mont Valérien, donc en février 44. Comment expliquer cette, alors assez brièvement, comment expliquer cette arrestation et puis cette fin tragique?
Tout simplement parce que la police de l'État français était extrêmement brillante. Elle était très douée. Donc ils ont... et il faut dire qu'eux, ils étaient une soixantaine à Paris à se battre les armes à la main. Enfin, pas tous se battaient les armes à la main, mais ils étaient 60 dans le groupe. Et ils avaient aux trousses 200 flics spécialisés, enfin, je veux dire, qui étaient concentrés sur leur cas. Donc ils étaient... Il y avait plus de 3 flics pour un combattant. Donc ils ont commis des imprudences aussi parce que beaucoup d'entre eux étaient très très jeunes, hein, à 16 ans. Je pense que la majorité d'entre eux avaient entre 16 et 24 ans. Leur chef, Manouchian par exemple, lui aussi n'était pas vraiment un combattant et a commis aussi des imprudences. Donc ils ont commencé à être filés. Il y a eu aussi quelques dénonciations, quelques trahisons même, et ils ont été filés, et la filature a fini en quelques mois par décapiter tout le groupe.
Eh bien, merci beaucoup Alain Blottière. Donc je rappelle que le film que vous avez coécrit s'appelle, donc il s'appelait Tommy.
Et
donc,
on l'appelait Tommy,
donc on pourra le revoir peut-être dans des festivals ou à d'autres occasions. Et puis que donc vous avez écrit un livre, donc Le tombeau de Tommy, qui est disponible aux éditions Gallimard. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. 3 adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.